Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face.
Eh bien, la vérité en face sur cette énergie dans cette période un peu compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-on reprendre le contrôle de notre énergie? Pour en parler ce matin, un spécialiste, ancien patron de Elf, ingénieur et dirigeant d'entreprise, Loïc Leflocq-Prigent. Et vos appels au 0826-300-300 pour nous donner votre avis. Peut-être que vous avez des solutions à apporter ou poser des questions. On vous attend au standard.
Oui, c'est ça. Bonjour Loïc Leflocq-Prigent. Merci bienvenue. D'être avec nous. Vous allez nous dire un petit peu... quelles pourraient être les stratégies qu'on pourrait mener? Juste avant cela, et puis il y a beaucoup de conséquences aussi, je sais que vous travaillez avec énormément d'entreprises, il y a énormément de conséquences là, avec cette hausse des prix de l'énergie sur les matières premières, enfin ça paralyse énormément de secteurs, et puis d'autres où ça renchérit en fait le prix. Tout de même, puisque vous connaissez bien aussi ça, pourquoi il y a une telle hausse, et là ça fait de nouveau du yo-yo, c'est-à-dire ça redescend, là, c'est en train de redescendre, bon, sur les sens.
Je crois qu'il faut d'abord, pour les auditeurs, leur dire que l'énergie, depuis très longtemps, il faut qu'elle soit abondante et bon marché, et que la position des États ou des collectivités soit l'indépendance. À chaque fois qu'on oublie qu'une énergie doit être abondante, bon marché et indépendante, on se trompe. Et on se trompe, on vient de se tromper pendant 20 à 30 ans, c'est-à-dire qu'on a mis l'accent sur autre chose. Alors, il ne faut pas maintenant se dire « Ah ben, c'est embêtant, on n'est pas indépendant, l'énergie n'est pas abondante, et puis elle est chère. » C'est normal, puisque nous avons oublié ces principes. Hein, et nous avons oublié ces principes, vraiment, depuis une trentaine d'années. Et alors, la France les a moins oubliés que d'autres, mais il est clair que l'Allemagne les a complètement oubliés. C'est-à-dire que l'Allemagne s'est mise dans une situation où elle est dépendante de la Russie, où l'énergie n'est pas abondante et elle n'est pas bon marché. Hein, vous vous rendez compte, en 30 ans, voilà ce qui a été fait.
Or,
l'Allemagne, c'est le poumon économique de l'Europe. Et par conséquent, nous souffrons dans notre poumon, ce n'est pas très agréable. Alors, que faut-il faire? Bien, il faut d'abord bien comprendre pourquoi on est arrivé là.
Ouais.
C'est-à-dire que si jamais on refuse le diagnostic, et si jamais on dit, vous voyez, c'est pas grave, on va mettre des rustines, mais si vous avez sous votre vélo une planche à clous, vous allez avoir du mal à mettre les rustines et à ce que ce soit utile. Bon, ouais. C'est ça la situation.
Ouais.
Alors, comment arriver d'abord? L'indépendance d'abord. L'indépendance, c'est soigner ses dépendances. C'est-à-dire que c'est la diversification. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'énergie en Europe, ou très peu. Mais vous pouvez diversifier un peu. Alors, par exemple, si jamais on avait pris le gaz de schiste qui existe en France, en Allemagne et dans un certain nombre de pays, on aurait un peu de gaz de schiste. On a refusé le gaz de schiste.
Ouais. Mais au prétexte que il y avait beaucoup d'incertitudes et ça impactait l'environnement.
Aucune incertitude, il suffit d'appliquer les règles, de prendre des règles et de dire aux industriels, voilà les règles, est-ce que vous pouvez satisfaire les règles? On a toujours fait ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des règles, on est tranquille. Mais il y a eu une position dogmatique en disant, nous ne faisons pas de gaz de schiste, on laisse les Américains en faire. Bon. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est que maintenant, on a du gaz naturel liquéfié qui arrive des États-Unis et qui est disponible. Et on dit, oh non, c'est du gaz naturel liquéfié qui vient du gaz de schiste, alors il ne faut pas faire. Donc, non seulement on s'interdit de faire du gaz de schiste, mais en plus, on interdit le gaz de schiste de rentrer alors que le gaz de schiste équilibre les données. Donc, je pense qu'il y a eu un aveuglement depuis 30 ans, sur des politiques qui sont bien et des politiques qui sont mal, en oubliant ce principe fondamental, l'énergie doit être abondante, bon marché, et doit conduire à une certaine indépendance, et l'indépendance c'est le soin d'indépendance.
On a conduit dans le brouillard un peu alors.
On a conduit dans le brouillard et avec le dogme de l'écologie politique qui n'était pas intelligent.
On peut en mettre quand même de l'écologie.
Bien sûr.
Sur le photovoltaïque, etc.
Quand vous dites je fais de l'éolien ou je fais du photovoltaïque.
Oui.
Et si vous l'aimez, vous avez en perspective cette indépendance. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez à faire l'ensemble de l'industrie correspondant aux éoliennes et correspondant photovoltaïque, aux panneaux photovoltaïques, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'ensemble de ces éléments sont importés de Chine ou sont importés d'autres pays, si jamais on parle des matériaux. Donc on a mené une politique de gribouille. Alors devant cette politique de gribouille, on arrive avec une dépendance complètement folle, complètement folle vis-à-vis de la Russie. C'est fou. C'est-à-dire que sur un marché du pétrole qui est complètement éclaté, on aurait très bien pu être beaucoup moins dépendant de la Russie. Il n'y avait pas de raison d'être à 40% dépendant de la Russie sur le continent européen. Il n'y a aucune raison. Simplement, il fallait à ce moment-là faire des terminaux gaziers comme nous l'avons fait en France, mais nous sommes les seuls à les avoir faits. Oui. C'est-à-dire qu'on a Dunkerque, Fos et Donge. Oui. Mais les Allemands, on en a en construction. Mais par contre, ils ont financé un pipeline sous la mer Baltique et ils étaient en train de financer un second pour se mettre complètement dans les bras de la Russie. Alors, je
qu'est-ce
dis pas
qui s'est passé là On fait une petite parenthèse.
De la même façon, sur l'éolien, et sur le solaire, on est dans les bras de la Chine. D'ailleurs, si jamais la Chine dit « j'ai plus envie de vous livrer », ben on n'a plus rien. C'est parce qu'on n'a pas fait d'industrie correspondante. Donc, on s'est mis en situation de dépendance.
Mais alors, c'est quoi? C'est un problème, en fait, alors national, bien sûr, mais aussi européen.
C'est
quand même
un problème européen.
Et
c'est
seul,
un problème
on ne peut pas y arriver, quand même. Si
c'est un problème de prix. C'est un problème de prix. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on dit, bien, les raffineries sont arrêtées en France ou ne sont pas en grand fonctionnement. Pourquoi? Ben, simplement parce que les raffineries en France sont chères, elles sont embêtées par toutes les lois de l'environnement, donc on essaie de les fermer, et puis on prend les raffineries pourries qui sont en Russie, et on prend les produits de Russie, parce qu'ils sont moins chers, parce qu'ils n'ont pas les contraintes que nous avions dans nos raffineries en France.
C'est quoi? C'est une hypocrisie
C'est l'hypocrisie totale. Ouais. Et donc cette hypocrisie, on est en train de la payer très cher, parce qu'on est en train de dire, je veux des sanctions contre... alors, c'est pas contre la Russie, c'est contre Poutine, contre Poutine, et qu'est-ce qu'on prend? Monsieur Biden dit il faut enlever le caviar et la vodka, et Madame Van Landen dit c'est simple, on va enlever les produits de luxe qui sont achetés par les oligarques russes. Enfin, on rêve. On est en train de mettre tous les jours 600 à 700 millions dans l'escarcelle de Monsieur Poutine pour qu'il paie sa guerre. Donc, et pourquoi? Parce qu'on a été dépendant. Parce qu'on a oublié. Je répète pour les auditeurs.
Oui.
Abondant, bon marché et indépendant. Et l'indépendance, c'est faire l'ensemble de l'indépendance. C'est-à-dire diversifier. Quand on n'a pas soi-même l'énergie, on vient la chercher chez d'autres. Et chez d'autres, le fait d'avoir
et
plusieurs...
Et on diversifie ses sources, quoi. C'est ce que vous dites.
Diversifier ses sources.
Il y a la production, bien sûr, il y a le nucléaire, il y a l'éolien, etc., les énergies renouvelables.
Après, il se trouve que la politique qui a été menée après 73, c'est-à-dire après le choc pétrolier, ça a été de dire, en tous les cas, on a un truc qui est clair, c'est le nucléaire, il faut faire le nucléaire. Et c'est ce que ça fait Pompidou, et ensuite Giscard, et ensuite Mitterrand. Donc tout le monde s'est dit, oui, là, on est sûr de nous. On a 75%.
On est sûr de notre politique, vous voulez dire?
De notre politique.
Oui.
Encore une fois, abondant, bon marché et indépendant. Ouais. C'est ça le principe. Ça a toujours été le cas. Tous les États se sont développés avec cette politique énergétique depuis la nuit des temps.
Comment
si vous réfléchissez.
On peut être bon marché? Comment on peut être bon marché? Parce que vous venez de dire que finalement, on l'achète en Russie parce que c'est moins cher, parce que toutes les charges sont beaucoup trop importantes en France.
C'est-à-dire qu'il faut desserrer les règles de manière à ce que les règles ne soient pas stupides et nous mettre comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les règles environnementales que nous avons en France sont beaucoup trop strictes et conduisent les industriels à déménager. Une partie de la délocalisation que nous avons aujourd'hui en France vient des règles environnementales françaises.
Et non pas européennes.
C'est-à-dire que les directives européennes sont transposées en France en augmentant les difficultés. Et ça, c'est quelque chose que je dénonce depuis une dizaine d'années. Personne m'écoute. Voilà, nous y sommes. C'est-à-dire que nous aurions pu garder des raffineries en France. On est en train de réduire. Alors, il en reste encore. hein, il reste Gonfreville. Mais si vous voulez, on a diminué de façon extrêmement importante les raffineries. Or, nous sommes.
Mais avec un impact sur l'environnement quand même, ce qu'on a réduit ou pas du tout.
Qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que l'impact sur l'environnement, si jamais on détermine quel est l'impact qui doit être fait sur l'environnement, on le fait très bien. Mais il faut regarder le problème de bon marché, comme vous l'avez dit. Il faut se souvenir, c'est les trois règles qu'il faut prendre. C'est abondant, bon marché et indépendant. Et ces trois règles-là, on peut très bien les appliquer si jamais on ne se tire pas une balle dans le pied en faisant en sorte que nos raffineries vont fermer. Aujourd'hui, vous avez des fonctionnaires qui sont des militants, ce ne sont plus des fonctionnaires, c'est des militants, qui ont envie qu'on ferme les entreprises, qui ont envie qu'on ferme les raffineries. Quand on ferme une raffinerie, c'est quelque chose de magnifique pour eux. Ils disent, voyez, on a fermé une raffinerie, c'est extraordinaire. Eh bien, quel est le sujet? Lorsque on essaie de sauver, par exemple, la centrale à charbon de Cordemais, en mettant des pellets, c'est-à-dire du bois.
D'accord.
On essaie de la sauver. On est attaqué par tout le monde. Or, aujourd'hui, on peut faire de la centrale de Cordemais qui est centrale à charbon, on peut la continuer et avec seulement 20% de charbon. Ben, la pollution, elle est minime. Donc on est dans le dogme. Non, il ne faut pas de charbon, on ne faut pas de charbon. Très bien. Alors faisons du bois. Ah ben non, pas de bois non plus. Pourquoi? Puisque vous êtes en train de faire du bois par ailleurs. Vous voyez, on est dans le dogme. Et tant qu'on sera dans le dogme, tant qu'on ne regarde pas les réalités, on aura des difficultés. Alors les Allemands ont été bien pires que nous.
Ouais.
C'est-à-dire qu'eux, ils ont arrêté le nucléaire. Et vous avez remarqué que lorsque on a dit il faudrait maintenant être en rapport de force avec Poutine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on fait du charbon.
Ouais.
Or, le charbon, ils l'importent de Russie. Ils se moquent de nous.
Ouais.
Et ils ont trois centrales nucléaires qui veulent absolument fermer dogmatiquement à la fin de l'année, alors qu'ils auraient très bien pu les garder. La Belgique, même chose. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre du gaz. On va mettre du gaz. Oui, c'est bien. C'est notre politique. Bon, très bien. Vous avez deux centrales qui tournent encore, qui peuvent encore tourner, encore pendant 10 ou 20 ans. Ah non, non, on ne va pas faire. On va continuer. On va prendre du gaz. Quel gaz? Ben, le gaz russe. Donc, vous voyez, l'hypocrisie totale du système, parce qu'on ne veut pas comprendre qu'il faut être abondant, bon marché, Et indépendant,
c'est évidemment qui vient de la multiplication des sources, comme vous l'avez dit. Vous continuez,
vous voulez
poser des questions à Loïc Le Floch-Prigent, allez-y, 0826 300 300. J'imagine qu'en l'écoutant, vous avez eu beaucoup de questions qui ont été suscitées, beaucoup d'interrogations,
nous aussi.
je suis prêt à y répondre.
Allez, il est prêt à y répondre, jusqu'à 10h. Allez, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile Deménibus. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face.
La vérité en face à l'énergie. Peut-on reprendre le contrôle de notre énergie et comment le faire? On en parle ce matin avec Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien patron de Elf, ingénieur et dirigeant d'entreprise. Vos appels 0800 26 300 300 et on part à Nîmes. Bonjour.
Bonjour. C'est Serge, oui.
Ça va, Serge?
Bonjour.
Bienvenue.
Serge.
Oui, bonjour, et bravo pour votre radio là, que j'écoute tous les matins.
Ah, très bien, ça nous fait plaisir.
C'est bien. Oui. Continuez, et parlez-en autour de vous, on écoute.
Serge, votre question ou votre réflexion, et Loïc Le Floch-Prigent est là éventuellement pour répondre ou apporter des compléments d'information.
Alors d'abord, pour mettre les choses au clair, moi j'ai travaillé dans l'énergie nucléaire et également dans le gaz toute ma carrière. Maintenant je suis retraité, mais je continue encore à donner des conseils. J'ai commencé ma carrière comme jeune ingénieur au montage de Fessenheim. Et après ça, j'ai été directeur de projet de 5 centrales de par le monde, hein, Chine, Roumanie et France. Alors, pour certains copains, j'ai un planning de remontage là parce que j'ai manifesté contre l'arrêt de Fessenheim, qui était un vrai scandale. Et en fait, rien n'est perdu à Fessenheim tant qu'on n'a pas balancé la sauce chimique pour décontaminer le primaire. Donc, moi, si vous voulez, j'ai fait un planning de remontage en prenant des marges par rapport au temps d'instruction d'un nouveau dépôt d'exploitation, etc., 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 etc. Et je démontre facilement qu'on gagne 11 ans par rapport à la mise en service du premier EPR2.
D'accord.
11 ans.
Il est clair qu'on peut faire redémarrer Fessenheim, qu'on a pris uniquement les éléments secondaires qu'on peut très bien remettre. Le cœur du réacteur n'a pas été touché, donc c'est l'essentiel. Et disons que mes anciens collaborateurs, puisque je suis quand même dans l'énergie depuis maintenant 40 ans, donc ça commence à compter, considèrent que pour 1 milliard, on doit faire redémarrer Fessenheim, ce qui, du point de vue de de la rentabilité fait une rentabilité de 18 mois, ce qui est pas mal que pour un investissement. J'aimerais bien avoir dans l'industrie toujours des investissements à payback 18 mois.
18 mois,
bon,
oui.
Et donc, alors après, le temps, bah, le temps, ça peut être très court, de mon point de vue et du point de vue de mes anciens collaborateurs. Simplement, il faut que ce soit certifié par l'ASN et tout dépendra de l'autorité de sûreté nucléaire, si elle prend beaucoup de temps pour certifier ou pas. Voilà. Mais disons que c'est un temps de certification, ce n'est pas un temps de construction et ça peut être un ou deux ans.
Est-ce qu'il faudra du courage politique pour Emmanuel Macron de se dire qu'il faut rouvrir?
Il faut toujours du courage politique lorsqu'on est dans des difficultés et par conséquent, il est temps d'en avoir. Il n'y en a pas eu pendant des années et c'est pour ça que Fessenheim a été fermé. C'est pour ça qu'on a fait ce programme pluriannuel de l'énergie complètement stupide et je crois qu'il en faudra aussi beaucoup à l'Allemagne, au chancelier allemand qui lui est en train de partir dans la voie du charbon au lieu de prendre la voie du nucléaire et qui a complètement
alors,
tort, puisque son charbon
ils ont
va venir de
les énergies renouvelables, parce que eux, ils veulent
mais
aller
ça ne
beaucoup.
Marche pas. Alors, bah, je vais vous expliquer.
Non, mais ça marche en partie, quand même, quoi.
Je vais vous expliquer.
Oui.
C'est-à-dire
Serge,
que l'énergie,
vous continuer,
ouais, l'énergie renouvelable, c'est-à-dire ouais. l'éolien. Et le solaire sont alternatifs, contrairement à la méthanisation.
Oui, c'est vrai.
Bon. Et la puissance installée est 25% de la puissance réelle. Mmh. Bon. Et donc, à chaque fois que ça s'arrête, le vent ou le soleil, il faut que quelque chose arrive derrière. Mmh. Ce quelque chose, ça ne peut pas être le nucléaire, contrairement à ce qu'on raconte. Mmh. C'est-à-dire, le nucléaire, c'est une base. De faire du yo-yo avec le combustible nucléaire, c'est complètement idiot. Donc, c'est essentiellement du gaz ou du charbon si jamais il n'y a pas de gaz. Mmh. Bon, et donc, le fait de dire je fais de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire éolien solaire, veut dire je fais du gaz. Mmh. Bon. Et je pense qu'aujourd'hui, si jamais je fais du gaz, à ce moment-là, il faut que je fasse du gaz naturel liquéfié, que j'augmente les dispositifs qui ne sont pas encore faits, de manière à être moins dépendant des gazoducs.
Ouais, ouais.
Le fait de faire des gazoducs conduit à la dépendance.
Juste sur l'énergie, on pourra la stocker. Là, maintenant, on est en train de travailler, vous avez vu, sur des procédés de plus en plus techniques qui permettaient, alors qu'on ne pouvait pas trop avant le
qu'est-ce
faire,
qu'on
hein,
peut
sur,
stocker
de l'électricité.
Non,
en fait,
on ne stocke jamais l'électricité.
Bah oui. Non, mais on va pouvoir la stocker, en fait, demain.
On ne peut jamais stocker l'électricité.
Alors, il y a des expériences qui sont en cours aux États-Unis et dans d'autres pays, et ça commence à marcher.
On ne stocke pas l'électricité.
Bah,
on
le fait avec les batteries.
Parce que l'électricité, c'est des électrons.
Avec les batteries.
C'est des électrons en mouvement. Et vous ne pouvez pas stocker...
Et avec les batteries.
Donc, on stocke d'une autre façon
l'électricité.
D'une autre façon. C'est-à-dire qu'il y a un rendement qui passe d'un état 1 à un état 2. Mmh. Et ces rendements, le rendement maximum, est toujours 80%. Parce que nous sommes sur la planète Terre. Peut-être sur Mars, ce sera différent. Et par conséquent, vous changez d'état, puis ensuite vous restituez l'état, et il faut faire 80 par 80, ça fait 64. Donc vous ne stockez que 64% de ce que vous
pouvez restituer. Non mais c'est ça, mais vous pouvez quand même en stocker un peu.
Donc, le problème, c'est le prix. Et on revient à abondant et bon marché.
Ouais,
excusez-moi de revenir donc ce n'est pas bon marché. Alors on peut le faire, mais ce n'est pas bon marché. Alors la manière de stocker la plus intelligente aujourd'hui, c'est de la stocker avec ce qu'on appelle le STEP, c'est-à-dire de mettre de l'eau dans les réservoirs. Et puis l'autre matière qui certainement marchera un jour, c'est-à-dire que lorsque je fais fonctionner le solaire ou l'éolien et que ça donne beaucoup, je fais de l'électrolyse de l'eau et j'ai l'hydrogène. Et cette économie d'hydrogène peut faire. Mais aujourd'hui, nous sommes en face à un problème
expérimental.
Nous sommes
Serge.
À un problème Poutine.
Serge, peut-être.
Et par conséquent, il faut résoudre ce problème.
Serge, une petite réflexion peut-être.
Alors, d'abord, merci Président d'être en phase avec ce que je pensais. On peut se mettre à votre service pour vous y aider avec vos collaborateurs.
Ah bah voilà.
Et alors, juste une réflexion à propos de l'Allemagne.
Oui.
Lors du sommet qu'il y a eu à Rennes entre Macron et puis Merkel, il avait été décidé que les Allemands étaient très contents qu'on arrête Fessenheim et qu'ils allaient mettre au pot. Alors, aux dernières nouvelles, d'après le maire de Fessenheim, ils ont effectivement versé 40 000 euros, quoi. Ils seront sous le dos, quoi.
Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire face à Vladimir Poutine, en fait, aujourd'hui, et le conflit, en fait, en cours?
Je pense lui montrer que... C'est de la psychologie, là. Hein. On est plus factuellement... à partir du moment où les Allemands sont obligés, pas seulement les Allemands, enfin les Allemands en priorité, sont obligés de verser 6 à 700 millions par jour pour continuer à fonctionner, on est en position de faiblesse. Mais il faut lui montrer que nous allons nous mettre en position de force. Et par conséquent, il faut dire que les Belges et les Allemands disent on va continuer le nucléaire, et nous, il faut qu'on accélère le nucléaire.
Oui, mais ça, c'est à terme, ça peut pas se faire.
C'est psychologique. Il faut dire à Monsieur Poutine, non, on a changé de position, on a changé de braquet.
Ouais, mais il saura que c'est du bluff, non ?
Non, pourquoi c'est du bluff ?
Si jamais
vous recommencez à faire les travaux sur Fessenheim demain, c'est pas du bluff. Si jamais vous continuez les centrales nucléaires, les trois centrales nucléaires qui sont en Allemagne, et vous dites je continue, c'est pas du bluff. Si vous continuez à faire le nucléaire en Belgique, ce qui est possible, puisque c'était en principe le 17 mars que les Belges se décidaient. C'est possible. Non, il faut psychologiquement dire ça suffit. Il faut, nous on a notre rôle à jouer, eux, ils ont leur rôle à jouer, et il faut appuyer là-dessus.
Oui, vous l'avez rencontré, vous le connaissez bien, Vladimir Poutine.
Je le connais pas bien.
Vous l'avez vu. Et puis en même temps, comme vous êtes toujours dans ce secteur de l'énergie, il y a eu des rencontres, il y a eu beaucoup de choses avec des gens que vous connaissez. Il est dans quelle stratégie, là ? Il est comment, là, psychologiquement, justement ?
Moi, j'ai l'impression qu'il est dans le syndrome « je veux la grande Russie » et l'Occident, c'est la démocratie. La démocratie, c'est pas le bien du peuple. Hein. Il est dans sa psychologie. Et il était comme ça lorsqu'il est revenu de... Moi, je l'ai vu en revenant de la RDA, où il était, il était partisan de la manière forte et non pas de la suppression du rideau de fer.
Et là, aujourd'hui, alors on dit qu'il est isolé, parano, un peu, c'est vrai.
Il y a un problème psychologique de force vis-à-vis de ce monsieur, et je pense que nous ne montrons pas la force. C'est-à-dire que lorsque je reviens, quand on parle de vodka de caviar et de produits de luxe pour les oligarques, on ne se met pas en position de force. Il faut montrer qu'on a compris, et je suis désolé de me répéter, mais il faut que les éditeurs comprennent, une énergie abondante, bon marché, indépendante, c'est ça que nous cherchons, et par conséquent, on n'aura plus besoin de vous. On ira vous chercher pour, lorsqu'on aura des besoins, pour équilibrer vis-à-vis, on ne va pas dépendre des autres, mais on n'a plus envie de dépendre de vous. Ouais. Et si jamais on lui montre ça, à l'heure actuelle, il est en train de dire, si jamais les Européens ne veulent plus de mon gaz, j'ai la Chine, et la Chine hésite, c'est-à-dire, il faut voir les ordres de grandeur, c'est-à-dire que ce que nous achetons aujourd'hui à Poutine, c'est 6 fois plus que ce que la Chine peut lui acheter compte tenu de la présence des gazoducs.
Juste un petit mot, on ne peut pas être en autarcie si totale, mais c'est quoi le point de bascule ? C'est combien de pourcentage ? On peut être dépendant de combien pour être...
20%, on devrait maximum. Être dépendant de la
aujourd'hui,
moitié, il faut passer de 40 à 20% pour l'Europe, et en ce qui nous concerne, nous, on pourrait très bien, si jamais en France, si jamais on est sérieux, on peut très bien passer assez rapidement de 20 à 0, mais on n'a pas été sérieux non plus.
Merci beaucoup pour toutes ces explications.
Merci,
Loïc
Le Floch-Prigent,
ingénieur dirigeant d'entreprise, ancien patron d'Elf. Et vous, Serge, et d'autres auditeurs qui voulaient nous appeler et vous interpeller, poser des questions au 0826-300-300, vous pourrez continuer dans toutes les émissions. Dans un instant...
C'est Christine Bouillot qui reçoit Georges-Marc Benhamou pour le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Et puis nous, on se retrouve demain matin, Patrick.
Allez, demain. Ciao, on vous embrasse.